Donc bonjour, je suis Marina Bélanger et je travaille à la Maison Éco-Citoyenne en tant que chargée d'animation. Pourquoi l'humain espèce invasive pour l'interrogation ? Donc d'ici 2050, on sera à 75% de la population qui sera urbaine. Donc pour faire face à cette densification de la population, cette exposition nous montre comment l'activité humaine se développe, parfois au détriment des milieux naturels, et quelles sont les conséquences et comment faire face à cet étalement urbain et proposer des solutions pour une relation ville-nature plus apaisée. On commence par ce premier panneau de la maison de l'exposition où on place l'homme dans la nature, dans sa globalité, avec cet arbre phylogénétique qui est une représentation schématique des relations entre les différentes espèces du vivant. On se rend compte que l'homme est qu'un petit maillon de la chaîne et que la plupart des êtres vivants sur Terre sont souvent des êtres unicellulaires, souvent invisibles, qui prennent une grande place et qui sont essentiels dans l'équilibre nature-biodiversité. Et voilà, l'homme n'est qu'un petit maillon de la chaîne.
Là, sur un des panneaux, la nature, une valeur économique ?
Oui, une valeur économique, mais surtout inestimable parce que on ne pourrait pas chiffrer tout ce que la nature nous apporte s'il n'y avait plus les abeilles et que 84% des espèces cultivées en Europe dépendent des insectes pollinisateurs. Comment remplacer les abeilles? Ça n'a pas de valeur. Et donc tout ça, c'est difficile à jauger, mais la nature a une grande valeur dans notre société et nous rend de nombreux services essentiels.
Les conséquences de l'urbanisation sont évoquées sur un panneau ?
Oui, alors sur ce panneau, nous avons fait une mind map, une carte avec des mots-clés qui apparaissent pour montrer les conséquences de cette urbanisation. L'étalement urbain, artificialisation des sols, l'accroissement des impacts du changement climatique. En ville, on a plus chaud, c'est plus pollué. On subit des événements météorologiques extrêmes et il y a plus de risques d'inondation également, mais également la perte des surfaces liées à cet étalement urbain. Il y a moins de surfaces dédiées à l'agriculture et aux espaces naturels et forestiers. Et puis l'urbanisation, c'est la cinquième menace pour la biodiversité. Après la chasse, la pêche, la dégradation des milieux, l'étalement urbain est responsable de la disparition de nombreuses espèces, en plus de la perte de paysages naturels, bien sûr. Et une fois qu'on a vu ces conséquences de l'urbanisation, dans l'exposition, on montre des initiatives et des actions possibles pour préserver et redonner sa place à la nature. Donc comment lutter contre les îlots de chaleur urbains en replantant des villes, végétaliser la ville, redonner une place à l'eau également, qui est très importante, notamment par les bassins de rétention qui permettent une biodiversité, mais surtout par les zones humides, qui représentent 30% des espèces menacées, les zones humides. Et 85% des zones humides de la planète sont déjà détruites. Donc celles qui restent, il faut les préserver. Ça nous apporte plus de fraîcheur et plus de biodiversité dans les villes et en campagne également, bien sûr.
Et repenser l'éclairage urbain.
Oui, voilà. Repenser l'éclairage urbain parce que ça peut perturber les insectes et les oiseaux, l'éclairage urbain. Donc comment faire en sorte de limiter cet éclairage dans les nouvelles zones urbanisées, que sa durée et son intensité soient sur certaines heures régulées. L'éclairage à la demande existe. Quand une personne souhaite traverser le passage piéton, c'est clair. Et que, quand il n'y a pas besoin, ça reste éteint. Et aussi la présence de signalisation rétro-réfléchissante sur les routes qui permettrait de réduire l'éclairage urbain et permettrait de garder des corridors sans lumière et pour faciliter le déplacement des oiseaux qui ne soient pas perturbés par cette lumière.
Pour accompagner et encourager la biodiversité, il y a les trames vertes et bleues.
Oui, les trames vertes et bleues, c'est une démarche qui vise à construire, maintenir et reconstituer un réseau de continuité écologique et terrestre et aquatique. Si on développe des zones où les insectes et les oiseaux peuvent être, il faut quand même qu'on puisse relier ces zones entre elles pour que les insectes, les oiseaux puissent y circuler librement. Et si entre ces zones il y a des routes sans aucun végétaux, bien sûr les oiseaux ne vont pas s'y rendre. Donc il faut bien sûr penser à cette continuité des espaces écologiques pour que la biodiversité puisse bien s'y développer et s'y sentir à l'aise.
Sur un panneau, il y a les initiatives locales sur le territoire de Bordeaux Métropole.
On présente les politiques emblématiques qui sont proposées à Bordeaux Métropole, comme la métropole sans pesticides. Depuis 2017, il y a une loi qui interdit l'usage des produits phytosanitaires sur les espaces publics de la métropole, qui sont polluants et nocifs. Donc voilà, il n'y a plus de pesticides sur les trottoirs, les accotements de voirie, les places, les rues, les parcs, les jardins. Et ça favorise l'apparition d'une nouvelle végétation spontanée. Et il faut aussi changer les mentalités et dire que voilà, ces roses trémières, ces coquelicots qui poussent sur le bord des trottoirs, ce n'est pas sale, nocif pour la santé ou pour l'environnement. C'est très joli, ça apporte plein d'insectes et plein de biodiversité. En plus de cette métropole sans pesticides, sur la métropole, il y a tous ces jardins collectifs. Collectivement, de faire pousser des fruits, légumes, des plantes aromatiques, médicinales, et puis qui apportent également beaucoup de bien-être aux habitants qui utilisent ces jardins, parce qu'il est prouvé que passer du temps dans la nature, dans son jardin, ça apporte un bien-être non négligeable. Et il y a plein de différents types de jardins partagés, thérapeutiques, pédagogiques, familiaux, qui sont présents sur tout le territoire de Bordeaux Métropole. Et en plus, ce qui incite aussi les habitants à végétaliser leur vie, leur ville, c'est les trottoirs vivants. Donc selon les communes, on peut demander un permis de végétalisation pour faire des carottages devant sa maison, planter ce que l'on veut, faire des bacs autour des arbres pour végétaliser sa rue. Il faut se renseigner auprès de sa mairie. Chaque mairie propose différentes choses pour amener de la biodiversité et des échanges aussi avec son voisinage autour de la végétalisation.
Et la maison éco-citoyenne propose également de fournir des graines.
Oui, à la maison éco-citoyenne, on a une grainothèque. Alors la grainothèque, c'est basé sur un système d'échange. On apporte ses graines, on donne également des graines, des petits sachets de plantes mellifères. C'est un mélange de différentes espèces qu'on peut mettre sur un petit coin de terre en bas de chez soi ou dans sa jardinière pour amener la biodiversité chez soi et puis également embellir sa rue. La maison éco-citoyenne est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 18h et jusqu'à 20h le jeudi. On est nocturne.